Dimanche 19 octobre, les footballeurs du FC Eupen disputent un match scolaire contre le club de Reft. En plein match, Alex Cabazel, 16 ans, s'effondre sur le terrain du FC Eupen. Il est foudroyé par un arrêt cardiaque et ne se relèvera pas. Fatalité ou négligence des médecins du club de 2e division? Pour en savoir plus, nous avons contacté le président et médecin du FC Eupen, Léonard Leuter. Mais le dirigeant n'a pas voulu s'exprimer. On ne peut faire que des bêtises en parlant de cas pareils, nous a-t-il répondu. Du côté des parents des footballeurs, un père a dit qu'il n'y avait aucun suivi médical au sein du club. Le mutisme du docteur Leuter ne nous a cependant pas empêché de mener notre enquête sur le mystère de la mort subite. Ce n'est pas la première fois que l'on voit un joueur s'effondrer sur un terrain de football belge. Les clubs n'assurent pas toujours correctement le suivi médical de leurs joueurs, mais sont-ils les réels responsables de ces manquements?
Tout d'abord, c'est quoi la mort subite? Jean-Luc Vachéry, cardiologue à l'hôpital d'Erasme.
Donc la définition de la mort subite, c'est un arrêt cardiaque qui survient chez un individu, homme ou femme, qui n'a pas de maladie cardiaque identifiée. Ça, c'est la définition de la mort subite. Donc c'est donc un arrêt brutal du cœur qui survient chez quelqu'un qui est a priori quelqu'un de tout à fait sain.
La mort subite peut donc toucher n'importe qui, n'importe quand. Mais chez les sportifs, il existe quand même des facteurs qui peuvent la provoquer. Une augmentation excessive des parois du cœur due à un effort physique, le surentraînement, mais aussi le stress, un traumatisme lié au ballon après un choc, le dopage ou bien tout simplement la fatalité. Mais il n'y a pas que la mort subite. Didier Nzili, ancien joueur de football professionnel.
Il y a des malaises qui se passent. Il n'y a pas longtemps, j'ai été voir un match d'amateur. Il y a eu un ami qui a eu, un ami qui a eu des malaises, qui commençait, il disait qu'il ne se sent pas bien, son cœur n'arrête pas de battre vite, et il avait des nausées, il avait envie de vomir. C'est la preuve que s'il avait fait un contrôle et tout ça, on ne pouvait pas lui faire jouer, on pouvait éviter le pire.
Ce cas n'est pas isolé, surtout dans les clubs belges de moindre niveau. On peut donc se demander pourquoi tant de malaises sur nos terrains.
Il y a 3 ans, quand je jouais au foot, on buvait le Red Bull avant le match. Hein. Mais quand même, c'était un niveau qui était élevé. C'était en première promotion, en première provinciale. Mais l'entraîneur, il s'en foutait. Et ça se tournait entre joueurs, on prenait du Red Bull.
Mais il n'y a pas que le Red Bull qui se consomme dans les vestiaires.
Il y a beaucoup de clubs où j'étais, c'était pas du tout suivi. Les joueurs qui fumaient des pétards avant le match, ou en mi-temps, ou avant de jouer, ça buvait l'alcool. C'est un truc qui est super interdit. Et l'entraîneur, les présidents, ils disaient rien, ils étaient là, ils rigolaient.
Non, les propos de cet ancien joueur ne sont pas les récits d'une virée en boîte de nuit, mais bien la réalité de certains terrains belges. Un tel témoignage pose la question de l'existence de règles dans le milieu du football. Right about now. Nous nous sommes donc rendus au cabinet de Michel Dardenne, ministre des Sports en communauté française.
En Belgique, les clubs de football font ce qu'ils veulent pour contrôler la santé de leurs joueurs. Se laisser faire s'explique par une incohérence de notre État. En effet, l'Union belge de football est une fédération qui rassemble tous les clubs du pays, mais le sport est une matière communautarisée. Pas facile donc pour les communautés de réguler les clubs qui dépendent d'une fédération nationale. Didier Allaire, collaborateur de Michel Dardenne.
Quand on a pris cette décision de scinder le sport, de le communautariser, on n'a peut-être pas pris toujours en compte tout ce que ça pouvait avoir comme conséquence, mais ça veut dire qu'on prendrait un match aujourd'hui entre Wavre et Anvers, on aurait des règles différentes pour le club d'Anvers et pour le club de Wavre au niveau du football. Parce que le club d'Anvers dépendrait d'une réglementation flamande en termes de prévention santé et le club de Wavre d'une autre réglementation propre à la communauté française.
Actuellement, il existe un décret datant du 8 mars 2001 qui vise à promouvoir la santé des sportifs. Il impose des recommandations aux fédérations, mais les clubs de football ne sont pas obligés de les respecter. Un flou juridique qui ronge le sport le plus pratiqué dans notre pays. Le politique trouve en plus que le sport est une matière trop vaste pour la réguler correctement.
Je pense qu'il est difficile pour moi de dire qu'est-ce qui est bon pour le football. Il y a de disciplines sportives qui existent. Rien qu'on prend les sports de combat, par exemple, il y a des dizaines et des dizaines de sports de combat qui existent, qui ne sont pas reconnus en communauté française. Mais je pense qu'il est très maladroit de dire que le gouvernement, donc le politique, le monde politique, va prendre une réglementation pour toutes ces disciplines qui n'ont pas fait l'effort de prendre un règlement médical ou une réglementation.
Mais qui doit légiférer alors? Face à cette problématique, il a bien fallu réagir du côté des politiciens. Le décret du 8 mars 2001 est en cours de modification. Conséquence probable à l'avenir, un examen médical sera obligatoire pour pratiquer un sport comme le football qui comporte des risques pour la santé. Reste à savoir comment le milieu du foot va accueillir cette nouvelle contrainte. En attendant, c'est la loi du laisser-faire qui comble ce vide juridique.
Certains médecins déplorent cette situation. Alain Aupert, médecin du sport dans la région du Centre.
Peut-être la faute aux politiques, oui, peut-être. Peut-être est-ce une habitude en Belgique où les tests médicaux ne sont pas tellement importants au niveau du sport. C'est possible. Au niveau médecine du sport, ça a quand même bien évolué depuis les 24 ans que j'ai commencé. Le rôle du médecin devient de plus en plus important. Le rôle du kiné aussi, ça c'est un fait certain. Mais malgré tout, reste insuffisant par rapport aux pays environnants, donc comme la France, l'Espagne et l'Italie.
Mais la pratique d'un sport comme le football n'a-t-elle pas un impact sur la santé ?
La pratique régulière et intensive du sport augmente environ le risque de problèmes cardiaques par 2,5. C'est en fait certain qu'à la longue, les bénéfices cardiovasculaires sont beaucoup plus importants que chez le sédentaire. Mais par rapport au sédentaire, lorsqu'on fait une pratique du sport intensif, les risques sont augmentés par 2,5.
Jouer au football, ça use donc le cœur. Pour prévenir les problèmes cardiaques, il faudrait que les joueurs aient un suivi plus rigoureux de leur santé. Mais l'INAMI, l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, ne rembourse pas l'échocardiographie, l'examen qui permet de détecter des anomalies cardiaques.
Au niveau professionnel, il est parfois difficile d'avoir les tests demandés, parce que ces tests-là coûtent cher. Il ne faut pas oublier non plus que l'INAMI ne rembourse que lorsque la personne est malade, donc un sportif. Au départ, n'est pas malade, d'accord. Donc, à ce moment-là, l'INAMI n'intervient pas là-dedans. Et le coût peut parfois s'avérer onéreux, mais tout est relatif chez un sportif. Nous médecins sportifs, toujours en disant, bon, mais si vous ratez un transfert, vous perdez quand même quelques millions. Pourquoi ne pas dépenser des centaines de milliers de francs pour des tests médicaux complets en début de saison ?
Les footballeurs sont donc contrôlés en fonction de leur valeur marchande. Un club de foot est une entreprise avant tout, où les joueurs sont considérés comme des machines à gagner. Et plus ces machines coûtent cher, plus elles doivent être entretenues. Les clubs de foot protègent seulement les joueurs pour lesquels ils ont dépensé des millions d'euros. Pour le docteur Ouchinski, médecin du sport à l'ULB, cette tendance guidée par l'argent est une évidence.
Le suivi médical du sport, c'est bon pour le haut niveau. Point, c'est tout. En dessous, c'est une gabegie, c'est inutile et c'est irréalisable.
Selon lui, l'échocardiographie ne peut pas détecter les risques de la mort subite. Cet arrêt brutal du cœur serait donc dû à la fatalité.
Personne ne pouvait prévoir la mort d'un jeune joueur sur un terrain de foot. Personne. Avec un stéthoscope, un électrocardiographe, et même une épreuve d'effort, la plupart de ces infections sont indétectables. C'est indétectable. Donc si vous savez ça, vous vous rendez compte que ça devient très critique de parler des épreuves d'effort, de défendre l'idée que si quelqu'un meurt sur un terrain, c'est plus lié à la fatalité qu'autre chose. C'était fatal, il devait mourir, c'était à ce moment-là, quoi.
Tous les spécialistes de la mort subite ne partagent pas l'avis tranché du docteur Ouchinski. Jean-Luc Vacherie, cardiologue à l'hôpital d'Erasme.
Tous les footballeurs, je pense que tous ceux qui veulent faire du sport de haut niveau devraient avoir, et en théorie ils l'ont, un examen cardiovasculaire complet qui comprend un électrocardiogramme au repos, un électrocardiogramme à l'effort, une échocardiographie et un test d'effort sur cycloergomètre, donc une ergospirométrie qui permet de déterminer en analysant les gaz expirés et inspirés, la consommation d'oxygène et la production en CO2. Ça, c'est le strict minimum. Et cet examen devrait évidemment être réalisé quand on délivre la licence à ces sujets qui vont s'entraîner et devrait être répété probablement de manière annuelle.
Ce cardiologue prône donc un examen médical complet. Notez que Jean-Luc Vacherie a opéré des joueurs de très haut niveau et selon lui, le facteur financier n'est certainement pas un frein à la réalisation systématique d'un examen préventif.
L'ergospirométrie coûte à charge du patient 25 euros par an quand l'examen est répété. Donc quand c'est un examen de dépistage, c'est de l'ordre de 10 euros. Et l'échocardiographie est certainement moins chère qu'un plein d'essence. Le coût de l'échocardiographie se situe aux alentours de 50 à 60 euros, ce qui, dans le budget d'un club, est grotesque. C'est ridicule. Donc c'est certainement pas le facteur financier et certainement pas le facteur limitant.
Le docteur Vacherie nous a aussi fait part de ses revendications qui, selon lui, permettraient de sauver des vies sur le gazon.
Donc le message, c'est simple. Un, il faut faire du dépistage systématique. Deux, il faut avoir dans les lieux publics des défibrillateurs automatiques parce que ça sauve des vies. Aux États-Unis, c'est obligatoire, il y en a partout. Et trois, il faut des gens pour les faire fonctionner. Donc il faut des gens qui ont un brevet de secouriste et qui ont une formation qui leur permet de faire de la réanimation cardio-respiratoire en première intention. Et ça, c'est valable pour n'importe qui tomberait dans la rue.
Une certitude. Face à une mort subite comme celle du jeune joueur de Pun, la loi du silence est bien trop souvent de mise. Normal. Quand il n'y a pas de loi, il faut bien la faire soi-même. Et c'est comme toujours l'argent qui dicte les règles. La balle est désormais dans le camp des élus. Reste à savoir s'ils parviendront à diminuer le nombre de malaises sur le terrain et peut-être même les risques de mort subite.